du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Amis confinés, bonsoir.
Eh oui, l'avantage, c'est que vous pouvez nous écouter.
Nous allons consacrer la présente émission. Et puis, comme le sujet est assez important, certainement d'autres émissions ensuite, à un orchestre étonnant.
C'est celui de Fletcher Anderson. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais quand même, on en parle de temps en temps, nous. Mais là, on va vous en parler plein.
Oui, cet orchestre a attiré notre attention d'abord, naturellement, parce qu'il tient une place importante dans l'histoire du jazz, hein, tout le monde le sait. Mais surtout parce que lorsque nous avons eu la chance, quand nous étions très jeunes, de rencontrer des gens qui avaient connu cet orchestre, et l'avaient entendu, et quelquefois même en avaient fait partie, eh bien, ils nous ont tous dit que c'était un orchestre extraordinaire et certainement le meilleur qui ait jamais existé. Alors ça surprend hein, quand on entend ça.
Ça surprend d'autant plus que quand on s'est un peu penché sur cet orchestre, on s'est aperçu que ces gens-là étaient très jeunes et qu'ils menaient une vie, alors musicale de folie, un peu une vie de bâton de chaise.
Oui, n'ayons pas peur des mots.
Mais alors, quelle musique, mon Dieu.
En fait, ces témoignages sont intéressants parce que, il faut bien le dire, jusqu'ici, le disque, l'enregistrement, ne donnait pas une idée de cet orchestre équivalente à ce que les gens en ont dit.
Et ça, c'est tout à fait vrai.
Les contraintes techniques de l'enregistrement de toute cette époque-là ont beaucoup affaibli, vieilli le son qu'on entend. Nous avons de la chance, car l'éditeur Frémo s'est fendu de faire un coffret qui s'appelle « Les trompettes de Fletcher », dont nous donnons la référence, d'ailleurs, FA5754, qui a, à la suite d'un travail minutieux et acharné, dit-on sur le livret, restitué en grande partie le son initial de cet orchestre comme s'il avait été enregistré le mois dernier. Et c'est ça que nous allons vous faire entendre.
Moi, je rajouterais que c'est un incroyable exploit technique. Ces personnes qui ont fait ça ont repris tous les enregistrements et ils en ont enlevé tout ce qui grattait, tout ce qui était déformé et ils les ont mis, à part une technique absolument éblouissante, ça il faut le dire, dans une situation comme si vous étiez au concert et que vous l'écoutiez.
Ah oui, quand on a ce coffret et une bonne installation, c'est assez frappant.
Je rajouterais que ces gens-là ont fait ça pour le plaisir, par vocation, et ça a duré 3 ans.
Oui, je pense qu'ils ont beaucoup travaillé et que l'ingénieur du son a été particulièrement performant. Vous trouverez beaucoup de détails dans la presse spécialisée, ou dans le livret d'ailleurs. Et maintenant, il faut qu'on vous brosse un peu le décor, car tout ça se passe pendant les années 20. Les années 20, c'est les Roaring Twenties, comme on dit en Amérique. Et vous n'avez aucune idée de ce que pouvait être la vie des gens à cette époque-là. Surtout à Harlem.
Vous me direz, mais ces petits jeunes-là, qui est-ce qui les sponsorisait? Comment ça se passait? Oh, c'était très simple. À quelque chose près, hein. C'était les gangsters. Ils adoraient le jazz. Et ils ouvraient des dancing, des salles immenses pour réjouir souvent une population noire. Hein. Il faut bien le dire, il y avait quelques blancs qui s'y aventuraient, mais pas beaucoup. Et je peux vous dire que ça marchait.
Ça marchait et c'était, vu d'ici, une sorte de maison de fous. Et les musiciens, très jeunes comme tu disais, la moyenne d'âge de l'orchestre, dans tout ce que vous allez entendre, est entre 21 et 25, 26 ans. Et eux, s'ils avaient envie de jouer, ils jouaient. Et ils avaient tout le temps envie de jouer. Il y avait une compétition en plus féroce qui allait avec, puisque à cet âge-là, on est très compétiteur. Et on pouvait jouer, certains l'ont fait, jusqu'à 14 heures par jour. Alors, est-il de dire que quand tu fais 14 heures de trompette par jour, eh ben, ça finit par compter.
Thank you.
entendre, c'est un disque qui remonte au tout début de l'orchestre, en 1923. Fletcher Henderson était un jeune étudiant venu de Géorgie, atterri à New York pour pouvoir poursuivre des études supérieures de chimie à l'Université de Columbia. Il était noir, donc où va-t-il ? À Harlem. Et comme il sait très bien jouer du piano, eh bien peu à peu la musique prend le pas sur tout le reste. Et il devient l'accompagnateur d'une chanteuse déjà célèbre qui s'appelle Ethel Waters. Et voilà ce que ça donne, parce que ça n'a pas été tout seul.
Fletcher craignait de compromettre sa dignité d'étudiant en chimie en jouant les accompagnateurs d'une fille qui chantait le blues et dansait le shimmy dans une cave. Il ne faut pas oublier que Harlem avait ses castes, sa haute et moyenne bourgeoisie et la racaille. Et moi, j'étais la racaille. Donc avant d'accepter, Fletcher fit venir toute sa famille de Géorgie pour m'examiner sur toutes les coutures et donner son avis. Ah, je l'ai conquise d'emblée. Mais avec Fletcher, je n'en finissais pas de me disputer sur sa façon de m'accompagner au piano. Brillant chef d'orchestre, maître en transposition et en arrangement, Fletcher, de tempérament, est un classique. Mais moi, je lui demandais cette partie de basse d'enfer, sans laquelle il n'y a pas de véritable jazz. Et il se dérobait. Je le chambrais là-dessus sans arrêt, et je le traitais d'incapable. Finalement, à Chicago, j'ai pu me procurer des rouleaux de piano de James Pete Johnson et je les lui ai joués à longueur de journée. Pour me prouver ses capacités, il s'est mis à les travailler. Et il a fini par atteindre un tel degré de perfection qu'il abattait toutes les touches sans se tromper une seule fois. C'est comme ça qu'il est devenu célèbre dans ce genre de musique, qui n'était pourtant pas le sien.
Mais en fait, l'ambition de Fletcher Henderson, c'est d'avoir un orchestre de danse et un orchestre qui puisse rivaliser avec la star de l'époque au point de vue orchestre de danse, un orchestre blanc qui s'appelait Paul Whiteman et qui s'était autoproclamé le roi du jazz. Et l'orchestre commence en une formation qui n'est pas très abondante, mais qui est déjà d'un effectif supérieur à ce qui se fait à l'époque. Et voici un échantillon de ce que l'orchestre faisait. Et justement, ça s'appelle Chicago Blues. Thank you. À ce moment-là, circonstance décisive, débarque à Harlem un jeune surdoué totalement prodigieux, le premier grand arrangeur de jazz qu'on connaisse, encore très jeune d'ailleurs, qui s'appelle Don Redman. Il entre dans l'orchestre de Fletcher et Fletcher sent qu'il a vraiment touché là un oiseau rare qui va devenir très important pour lui. Et parallèlement à ça, il se dit que dans son orchestre, il manque ce qu'on appelle à l'époque un soliste hot, c'est-à-dire un type qui prend des solos qui allument. Tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Une sorte de détonateur. Et c'est comme ça que le jeune Lou Armstrong, à l'époque à Chicago chez King Oliver, est recruté par Fletcher Anderson, qui en a entendu parler et qui l'a même entendu en direct à l'occasion d'une tournée quelques années plus tôt à la Nouvelle-Orléans. En fait, l'arrivée de Lou Armstrong à Harlem va déclencher une véritable guerre culturelle. Car la coqueluche de Harlem, c'est un nommé Joe Smith, qui est déjà d'ailleurs lié à Fletcher Anderson.
Et la rencontre de ces deux monstres musicaux, on va vous la raconter.
La parole est à monsieur Louis Metcalf, trompettiste de son état et témoin direct des événements.
Ça a été une vraie bagarre, chaque musicien prenant parti. Louis représentait le style du sud et Joe le style de l'est. Je n'ai rien entendu de plus formidable que la nuit où Fletcher a présenté Louis à l'Apollo. C'est l'orchestre maison qui a attaqué le premier. Joe était installé dans la fosse. Il a cassé la baraque dès ses premières mesures, histoire de montrer qu'il était le grand Joe Smith. Après ce passage-là, il y a bien eu une demi-douzaine de rappels. Après ça, sur scène, ça a été au tour de l'orchestre de Fletcher. Ils ont commencé par Copenhagen. Le solo de Louis fut très bon, mais d'un style tellement différent que le public ne savait pas trop qui applaudir le plus. Le deuxième morceau a été encore meilleur. Et les gens ont commencé à s'agiter et à se dire qu'il y avait vraiment là un autre as de la trompette. Au troisième morceau, ils savaient vraiment à quoi s'en tenir. Louis avait conquis la salle.
Pour vous donner un échantillon de l'apport de Louis Armstrong dans cet orchestre, nous allons vous passer à la file deux morceaux où il intervient. Vous ne pouvez pas manquer son éruption dans le disque parce que vous changez d'altitude et tout le monde autour change d'attitude. Ça, c'est absolument
évident.
Voici Shanghai Shuffle et Money Blues. Il s'agit déjà d'arrangements du jeune Don Redman.
Hey!
l'orchestre de Fletcher Anderson, il y a eu, avant l'année que Louis Armstrong a passé dans la formation, et après. Un avant et un après. Mais finalement, Louis a été déçu de l'expérience.
Oui, il s'attendait à ce qu'on lui donne une place véritable. Il connaissait sa valeur. Même si c'était quelqu'un de profondément modeste, hein, Louis Armstrong. Mais quand même, il se savait excellent et il savait qu'il allait apporter autre chose. Mais ça ne s'est pas passé comme il espérait.
Non, et en particulier, il pensait qu'il allait pouvoir chanter. Parce que tu sais que Louis Armstrong a commencé dans la vie comme chanteur de rue à l'âge de 8-9 ans, hein, avec trois autres galapias de son acabit. Et ça a toujours été un formidable chanteur. Pour Fletcher, Louis avait été engagé comme soliste hot, point final. Voilà, c'était son idée, et puis voilà. C'était la fonction qu'il lui avait assignée. Bah, chef d'orchestre, j'ai besoin de vous pour faire ceci et pas autre chose. Alors c'est ça qu'il a un peu déçu. Alors du coup, naturellement, il s'est beaucoup jeté dans la musique qu'il faisait. Et quand même, Fletcher Anderson a consacré deux enregistrements à lui donner la prépondérance. Et nous allons vous les faire entendre. Le premier s'appelle
The Meanest Kind of Blues.
Et l'autre que vous entendrez, il est très connu parce qu'il vient directement d'un enregistrement célèbre à l'époque déjà de King Oliver.
Sugarfoot Stomp. Thank you.
Donc au bout d'un an, Louis Armstrong va regagner Chicago. Et à partir de là, il va se mettre à enregistrer des disques célébrissimes, pierre angulaire de l'histoire du jazz, parce que c'est là, finalement, qu'a été inventé une sorte de langage que tout le monde a adopté. Dans le jazz, on parle l'armstrongien, essentiellement. Hein, faut bien le dire. Alors nous laissons Louis Armstrong poursuivre sa carrière à Chicago, et nous revenons à Fletcher Anderson, car il faut bien un remplaçant à ce météore. Et ce remplaçant, c'est un tout jeune homme qui a à l'époque 18 ans. Et vous allez voir comment ça s'est passé.
C'est Rex Stewart qui raconte lui-même. « Je jouais avec la formation d'Elmer Snowden dans une boîte située au coin de Lennox et de la 129e. Ce soir-là, je vois arriver à une table du premier rang un homme grand et distingué que suivait comme son ombre un jeune homme petit et trapu qui souriait de toutes ses dents. Alors, les exclamations fusèrent. Oh, « C'est Fletcher Anderson et Louis Armstrong !» J'ai failli en avaler mon embouchure. Pris de panique, j'ai dit à Elmer que je ne me sentais pas bien et que je voulais rentrer chez moi. Il m'a répondu de lui faire le plaisir de rester là et de continuer à souffler. Hein. J'ai eu une de ces trouilles. Je ne pensais pas que je verrais un jour mon idole d'aussi près et que je serais obligée de jouer devant lui. J'ai insisté et me suis levée. Mais Elmer m'a mis une taloche. Je me suis rassis et essayé de jouer, encouragée par les copains de l'orchestre. À la fin du morceau, Louis s'est approché, m'a demandé mon nom et m'a félicité. Oh, j'ai bien cru tomber dans les pommes. Un an après, je jouais au Nest Club et on m'a demandé au téléphone. Je n'oublierai jamais cette conversation. « Allô, ici Louis, Louis Armstrong. Voulez-vous un bon boulot ?»« Ah ben ça oui. »« Bon, vous me remplacez chez Fletcher dans 15 jours. »« Non, 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 pas ça. Je croyais que vous vouliez me prendre dans votre orchestre. » Non, non, je vais simplement monter un petit orchestre à Chicago. Ah non, désolé Louis, jamais je n'aurai le courage de prendre votre succession et je... Vous rigolez. Allez, à ce soir, on ira vous voir.
Entre-temps, le fameux Joe Smith est entré dans l'orchestre. Rex Stewart et Joe Smith vont donc se retrouver côte à côte et ça remplace le tout premier tandem de trompettes que vous avez entendu au début de l'émission, qui était formé de Howard Scott et de Elmer Chambers. Et vous allez entendre un morceau très significatif où on voit à la fois le talent de Joe Smith qui expose le thème de ce blues avec une âme absolument extraordinaire et le stress de ce tout jeune homme qui finalement a l'impression d'occuper un fauteuil trop grand pour lui.
Et oui, il est tellement impressionné que ça s'entend dans son solo. Hein.
Car c'est lui qui prend le solo principal de ce disque. Jackass Blues. Thank you. c'est le moment de vous parler un peu plus de Joe Smith. Joe Smith, c'est peut-être le trompettiste le plus oublié de toute l'histoire du jazz.
Et pourtant, quelle qualité! Mais il est inclassable. C'est vraiment un musicien à part.
Il s'agit d'abord d'un exceptionnel technicien. Je me demande qui on pourrait aller chercher pour trouver une plus grande maîtrise de son instrument que ce musicien-là. Il a été très bien décrit par Doc Cheatham, que nous avons très bien connu, et qui a été son voisin de pupitre dans un orchestre qui s'appelait plus tard les Mackinac Cotton Pickers.
Voilà ce qu'en dit Doc Cheatham. J'ai rencontré Joe Smith pour la première fois à Nashville, au Bijou Theater. Il accompagnait Ethel Waters. Son apparence m'a tout de suite frappé. Il portait des pantalons blancs à pattes d'éléphant. Je n'en avais encore jamais vu. Quand il jouait, il posait un pied sur un coussin. C'était vraiment un gentleman. Il était aussi beau que la sonorité de sa trompette et il jouait de très belles choses en se servant d'une sourdine en caoutchouc, un plunger. C'était un type à l'air plutôt sérieux, très sérieux même, très concentré sur ce qu'il jouait. Il était peu bavard, je ne l'ai jamais entendu parler musique ou musicien. Il avait un vibrato qu'il n'utilisait que dans les solos, jamais dans les ensembles. Chez Fletcher Anderson, il était aux côtés de Tommy Ladnier, mais on ne pouvait pas les confondre. Personne ne pouvait avoir la même sonorité que Joe Smith, et son style était très personnel, inimitable. On le reconnaissait immédiatement, n'importe où, n'importe quand. Il a eu une très grande influence, et il était très populaire, plus populaire qu'aucun autre dans l'orchestre. Moi qui étais assis à côté de lui au Mackinac Cotton Pickers, j'étais émerveillée de l'entendre jouer. Quand il était en lèvres, il pouvait être aussi bon que lui.
C'est très intéressant ce témoignage, parce que là on a quand même affaire à un véritable poète de l'instrument. C'est un improvisateur et c'est un poète. Et il a vraiment ses qualités au plus haut niveau et c'est ça qui le rend unique. Alors nous allons vous passer deux morceaux. Le premier s'appelle
« What Chacolum Blues ».
Ça, c'est pour vous faire écouter le talent de ce trompettiste-là pour exposer un thème. Et puis le deuxième, il est très très célèbre. Le solo de trompette au début et à la fin est par Rex Stewart, un peu violent. Mais le solo du milieu, le solo de Joe Smith, énormément de gens dans le jazz le connaissent par cœur. Le second morceau, là, s'appelle
The Stampede. Thank you.
Évidemment, vous avez deviné que Rex Stewart ne restera pas beaucoup plus longtemps dans l'orchestre. Il y reviendra plus tard. Là, il n'en peut plus, il s'en va.
On va vous faire rire. Il a dit « Ma grand-mère est malade, il faut que j'y aille ». C'était presque « J'ai piscine hein. ».
Enfin, de toute façon, il faut le remplacer. Et à ce moment-là, surgit dans le paysage un autre Louisianais que Louis Armstrong, un type qui s'appelle Tommy Lanier.
C'est un Louisianais, Tommy Lanier. Mais il a quitté, comme d'ailleurs beaucoup, la Louisiane à 17 ans. Et il n'y reviendra jamais. Hein. Donc il passe par Saint-Louis, Chicago, etc. Et il finit à New York. Il va même aller en Europe. Il aime beaucoup l'Europe. Hein.
Oui, en fait, l'année qui va passer chez Fletcher Anderson, eh bien, elle s'inscrit entre deux voyages en Europe.
En Europe, les Noirs américains sont fêtés, très bien reçus, parce que par rapport au racisme totalement ambiant en Amérique, l'Europe semble un pays pas du tout raciste pour eux. Hein. Ils s'y trouvent bien, et peut-être même en particulier en France.
Oui, beaucoup vont fréquenter la France et ça va devenir quelque chose d'extrêmement intéressant pour la connaissance du jazz en France. Mais toute l'Europe leur appartient. On les retrouve aux Pays-Bas, en Belgique, en Scandinavie, en Allemagne à l'époque, parce qu'on est avant le nazisme, mais la vie de Berlin, c'est une vie extrêmement agitée. On les trouve aussi en Russie, pense que Tommy Lanier a joué pour Trotsky, qui aimait beaucoup le jazz.
Étonnant, non ?
Et on en retrouve même certains, alors d'autres, comme Albert Nicolas, à Bombay ou à Shanghai. Le jazz devient planétaire à cette époque-là, peu à peu.
Tommy Lanier, il apparaît comme un type qui met le feu.
Oui, tu sais, dans le jazz, on a cette expression-là souvent. « Ouais, je suis allé jouer ici ou là, on a mis le feu. Bah, » Alors à celui-là, vraiment, c'est un incendiaire. Un pyromane.
Il a une sonorité, certains disent qu'elle est rugissante. Des phrasés, tac, tac. Et en même temps, une éloquence. C'est un homme complet, mais toujours dans le magnifique.
C'est un autre Louisianais qui débarque dans cet orchestre. Il faut savoir que chez Fletcher Anderson, déjà, ils ont beau être très jeunes, ce sont de grands messieurs. Et le Louisianais, il fait un peu paysan. Donc, il importe qu'il sache se tailler son fief. Et alors, Tommy Lanier, qui a beaucoup de caractère, lui, il va immédiatement montrer aux autres de quel bois il se chauffe. Et ça tombe bien, on enregistre très peu de temps après son arrivée. C'est un morceau qui est une sorte de concerto pour trompette rugissante. Ça s'appelle « The Chant ». Il a comme particularité la présence d'un orgue qui est tenu par Fats Waller.
Et là, ce sont des conditions carrément rocambolesques. L'orgue de Fats Waller se trouve dans un autre espace que l'orchestre. Résultat, évidemment, il y a un décalage dans le son. Mais rien, rien n'empêche la force de cet homme-là de s'exprimer.
Thank you. dans l'orchestre de Fletcher Henderson, où se trouve déjà Joe Smith. C'est l'avènement d'un autre tandem de trompettes. Celui-là va faire date, car la collaboration de Joe Smith et Tommy Lanier va vraiment faire des étincelles. Et pourtant, ce n'était pas gagné.
Ben oui, ça s'explique un peu. Parce que d'un côté, il y a l'homme du Sud, et de l'autre, celui de l'Est. Le shouter. C'est shout, ça veut dire celui qui crie, quoi. Et le singer, celui qui chante. Le dur, le pas commode. Et le smooth. Vous savez, les smoothies, c'est tendre, c'est beau. En gros, c'est le calme et la tempête. Ben, c'était un peu risqué tout ça. Hein. Et pourtant, cette idée, elle s'avère géniale. Parce que Joe Smith et Tommy Lanier, ils sont vraiment compatibles. Et King Oliver y est pour beaucoup.
King Oliver, à cette époque-là, c'est un grand maître. Les gens qui vont à Chicago en résidence, les orchestres qui passent par là, se précipitent pour aller l'entendre en vrai. Tout le monde connaît ses disques parce que les disques circulent beaucoup et son influence s'exerce d'une façon ou d'une autre chez tel ou tel. Évidemment, Joe Smith et Tommy Lanier n'en ont pas pris les mêmes éléments, mais ils ont été l'un et l'autre influencés par cet homme-là. Nous allons vous passer deux disques où leur connivence est absolument patente. Le premier s'appelle Snag It, c'est Tommy Lanier qui joue au début, et après un break, qui est justement au départ une création de King Oliver, car le morceau est de King Oliver, vous entendrez Joe Smith. Et à la fin du disque, il y a des réponses de trompette sur une partie plus rapide, et on se rend compte que ces deux trompettistes, qui sont là à la tierce, jouent comme un seul homme. Et puis après on entendra un autre morceau où on les entend tous les deux, ce morceau s'appelle Stockholm Stomp, si vous avez appris à les distinguer l'un de l'autre. Et bien maintenant que vous savez sans doute distinguer Tommy Lanier et Joe Smith, à travers tout ce qu'on vous en a raconté, bonne chance.
C'est un examen, faites attention. Hein. Thank you. pour nous, qui sommes parfois influencés, notre civilisation est quand même très influencée par le classique, hein. Un orchestre, c'est avant tout des musiciens qui vont interpréter des partitions. Mais il faut savoir qu'en jazz, d'accord, il y a des partitions. D'accord, quelquefois, c'est même assez complexe. Mais c'est avant toute chose, ils jouent pour la danse, ces musiciens-là.
Oui, ça c'est sûr. Quand on se retrouve une douzaine de gens et en section, il faut bien qu'il y ait des partitions. Alors en plus, là, il s'agit de celle de Don Redman. À l'heure actuelle, où certaines formations juvéniles et très techniciennes essayent de les rejouer, on se rend compte que c'est extrêmement difficile.
Oui, c'était des gens qui travaillaient très largement leur instrument, autant qu'un musicien classique actuellement. Hein.
Mais il y a une grosse différence, c'est que dans l'exercice du dancing, d'abord un contexte très particulier, parce qu'on est devant quelquefois 2 ou 3 000 personnes qui dansent, et sans sono.
Et c'est très chaleureux, parce qu'on est en face du public, et le public, c'est ça qui est formidable, il réagit en fonction. Les gens, quand il y a quelqu'un qui fait un solo absolument épatant, « Yeah man, yeah !» ils le crient, mais parce qu'ils en ont envie.
Il y a beaucoup de spontanéité. Et c'est pourquoi les morceaux de Fletcher Anderson en direct, ceux qu'on nous a racontés, ils étaient pour les danseurs et pas pour le studio. Ils pouvaient durer 10 minutes. À une époque où le studio se limitait à 3 minutes 20. Et là, il faisait la part très belle aux improvisations. Et il y avait même des cas où on démarrait un morceau sans savoir ce qu'on allait faire avec. Ça, ça s'est retrouvé plus tard chez Count Basie. Le chef vous envoie une introduction. Vous avez compris que c'est un blues, tout le monde a compris hein, tout de suite que c'était une introduction de blues. Tout le monde a saisi la tonalité parce que évidemment ils sont pas sourds. Hein. Et ça part comme ça. Et quelqu'un fait un thème qui passe par la tête. Puis peu à peu ça s'organise en riff, en section. Et ça peut devenir absolument volcanique. D'ailleurs ça, on vous le fera entendre à la fin de notre cycle sur Fletcher Anderson. Dans d'autres circonstances.
Au fond, ça s'appelle une improvisation organisé naturellement.
C'est intraduisible en disque et c'est pour ça qu'il y a une différence entre ce qu'on en raconte et ce qu'on peut en écouter après coup. Pour arriver à ce résultat, il faut une super section rythmique et en particulier, il faut un tuba surpuissant. Et Fletcher Anderson va engager un tuba surpuissant qui s'appelle June Cole et son arrivée dans l'orchestre, c'est un événement important. Et pour vous donner une idée de l'efficacité de ce tuba, il y a l'arrangement de Don Redman qui s'y prête admirablement et qui s'appelle
Henderson Stomp.
Thank you. Que va-t-il se passer? Quels seront les musiciens qui vont entrer et sortir de cet orchestre? Vous le saurez
dans une des planèses prochaines, en suivant les aventures du petit Fletcher Anderson.
À suivre!
C'était la planèse du jazz.
À la planèse prochaine.